Chapitre 3 Le concert de famille. Comme j'allais me retirer, je m'arrêtai, la main sur la clé de sa porte, écoutant avec étonnement une musique assez rapprochée et venue du château même. Entendue de la fenêtre, elle nous sembla formée de deux voix d'homme, d'une voix de femme et d'un piano. C'était pour moi une douce surprise à 7 heures de la nuit. Je proposai à mon camarade de l'aller écouter de plus près. Le petit pont le vit, parallèle au grand et destiné à laisser passer le gouverneur et les officiers pendant une partie de la nuit, était ouvert encore. Nous rentrâmes dans le fort et, en rôdant par les cours, nous fûmes guidés par le son jusque sous les fenêtres ouvertes que je reconnus pour celles d'un bon vieux adjudant d'artillerie. Ces grandes fenêtres étaient au rez-de-chaussée et, nous arrêtant en face, nous découvrîmes jusqu'au fond de l'appartement la simple famille de cet honnête soldat. Il y avait, au fond de la chambre, un petit piano de bois d'acajou garni de vieux ornements de cuivre. L'adjudant, tout âgé et tout modeste qui nous avait paru d'abord, était assis devant le clavier et jouait une suite d'accords, d'accompagnements et de modulations simples, mais harmonieusement unies entre elles. Il tenait les yeux élevés au ciel et n'avait point de musique devant lui. Sa bouche était entrouverte avec délice sous l'épaisseur de ses longues moustaches blanches. Sa fille, debout à sa droite, allait chanter ou venait de s'interrompre, car elle regardait avec inquiétude, la bouche entrouverte encore, comme lui. À sa gauche, un jeune sous-officier d'artillerie légère de la garde, vêtu de l'uniforme sévère de ce beau corps, regardait cette jeune personne comme s'il n'eût pas cessé de l'écouter. Rien de si calme que leur pose, rien de si décent que leur maintien, rien de si heureux que leur visage. Le rayon qui tombait d'en haut sur ses 3 fronts n'y éclairait pas une expression soucieuse, et le doigt de Dieu n'y avait écrit que bonté, amour et pudeur. Le froissement de nos épées sur le mur les avertit que nous étions là. Le brave homme nous vit, et son front chauve en rougit de surprise, et je pense aussi de satisfaction. Il se leva avec empressement, et prenant un des 3 chandeliers qui l'éclairaient, vint nous ouvrir et nous fit asseoir. Nous le priâmes de continuer son concert de famille, et avec une simplicité noble, sans s'excuser et sans demander d'indulgence, il dit à ses enfants « Où en étions-nous ?» Et les 3 voix s'élevèrent en chœur avec une indicible harmonie. Timoléon écoutait et restait sans mouvement. Pour moi, cachant ma tête et mes yeux, je me mis à rêver avec un attendrissement qui, je ne sais pourquoi, était douloureux. Ce qu'il chantait emportait mon âme dans des régions de larmes et de mélancoliques félicités, et poursuivi peut-être par l'importune idée de mes travaux du soir, je changeais en mobiles images les mobiles modulations des voix. Ce qu'il chantait était une de ces chœurs écossais, une de ces anciennes mélodies des bardes que chante encore l'écho sonore des orcades. Pour moi, ce cœur mélancolique s'élevait lentement et s'évaporait tout à coup comme les brouillards des montagnes d'Ossian. Ces brouillards qui se forment sur l'écume mousseuse des torrents de l'Arvène s'épaississent lentement et semblent se gonfler et se grossir en montant d'une foule innombrable de fantômes tourmentés et tordus par les vents. Ce sont des guerriers qui rêvent toujours, le casque appuyé sur la main et dont les larmes et le sang tombent goutte à goutte dans les eaux noires des rochers. Ce sont des beautés pâles dont les cheveux s'allongent en arrière, comme les rayons d'une lointaine comète, et se fondent dans le sein humide de la lune. Elles passent vite, et leurs pieds s'évanouissent enveloppés dans les plis vaporeux de leur robe blanche. Elles n'ont pas d'ailes et volent. Elles volent en tenant des harpes, elles volent les yeux baissés, la bouche entrouverte avec innocence. Elles jettent un cri en passant et se perdent en montant dans la douce lumière qui les appelle. Ce sont des navires aériens qui semblent se heurter contre des rives sombres et se plonger dans des flots épais. Les montagnes se penchent pour les pleurer et les dogues noirs élèvent leurs têtes difformes et hurlent longuement en regardant le disque qui tremble au ciel, tandis que la mer secoue les colonnes blanches des orcades qui sont rangées comme les tuyaux d'un orgue immense et répandent sur l'océan une harmonie déchirante et mille fois prolongée dans la caverne où les vagues sont enfermées. Et la musique se traduisait ainsi en sombres images dans mon âme, bien jeune encore, ouverte à toutes les sympathies et comme amoureuse de ces douleurs fictives. C'était d'ailleurs revenir à la pensée de celui qui avait inventé ces chants tristes et puissants que de les sentir de la sorte. La famille heureuse éprouvait elle-même la forte émotion qu'elle donnait et une vibration profonde faisait quelquefois trembler les trois voix. Le chant cessa et un long silence lui succéda. La jeune personne, comme fatiguée, s'était appuyée sur l'épaule de son père. Sa taille était élevée et un peu ployée, comme par faiblesse. Elle était mince et paraissait avoir grandi trop vite, et sa poitrine un peu amaigrie en paraissait affectée. Elle baisait le front chauve, large et ridé de son père, et abandonnait sa main au jeune sous-officier qui la pressait sur ses lèvres. Comme je me serais bien gardé par amour-propre d'avouer tout haut mes rêveries intérieures, je me contentais de dire froidement « Oh, que le ciel accorde de longs jours et toutes sortes de bénédictions à ceux qui ont le don de traduire la musique littéralement !» Pas depuis trop admirer un homme qui trouve à une symphonie le défaut d'être trop cartésienne et à une autre de pencher vers le système de Spinoza, qui serait écrit sur le panthéisme d'un trio et l'utilité d'une ouverture à l'amélioration de la classe la plus nombreuse. Si j'avais le bonheur de savoir comme quoi un bémol de plus à la clé peut rendre un quatuor de flûte et de basson plus partisan du directoire que du consulat et de l'empire, je ne parlerai plus, je chanterai éternellement. Je foulerai aux pieds des mots et des phrases qui ne sont bons tout au plus que pour une centaine de départements, tandis que j'aurai le bonheur de dire mes idées fort clairement à tout l'univers avec mes 7 notes. Mais, dépourvu de cette science comme je suis, ma conversation musicale serait si bordée que mon seul parti à prendre est de vous dire, en langue vulgaire, la satisfaction que me cause surtout votre vue et le spectacle de l'accord plein de simplicité et de bonhomie qui règne dans votre famille. C'est au point que ce qui me plaît le plus dans votre petit concert, c'est le plaisir que vous y prenez. Vos âmes me semblent plus belles encore que la plus belle musique que le ciel ait jamais entendue monter à lui, de notre misérable terre, toujours gémissante. Je tendis la main avec effusion à ce bon père, et il la serra avec l'expression d'une reconnaissance grave. Ce n'était qu'un vieux soldat, mais il y avait dans son langage et ses manières je ne sais quoi de l'ancien bon ton du monde. La suite me l'expliqua. Voici, mon lieutenant, me dit-il, la vie que nous menons ici. Nous nous reposons en chantant, ma fille, moi et mon gendre futur. » Il regardait en même temps ces beaux jeunes gens avec une tendresse toute rayonnante de bonheur. « Voici, ajouta-t-il d'un air plus grave, en nous montrant un petit portrait, la mère de ma fille. » Nous regardâmes la muraille blanchie de plâtre de la modeste chambre, et nous y vîmes, en effet, une miniature qui représentait la plus gracieuse, la plus fraîche petite paysanne que j'avais greuse et douée de grands yeux bleus et de bouche en forme de cerise. Ce fut une bien grande dame qui eut autrefois la bonté de faire ce portrait-là, me dit l'adjudant, Mais c'est une histoire curieuse que celle de la dot de ma pauvre petite femme. Et à nos prières premières de raconter son mariage, il nous parla ainsi autour de 3 verres d'absinthe, verres qu'il eut soin de nous offrir préalablement et cérémonieusement.